Bien, je regrette d'avoir demandé à parler tôt, parce que je trouve que plus la nuit avance, et là elle ne fait que démarrer, plus ça devient intéressant. Voilà. Et j'aurais dû m'inscrire pour 5 heures du mat. Je le ferai la nuit prochaine. Si vous me proposez une quatrième intervention improvisée à 5 heures, je reste. Thalès, ça roule. Voilà. J'ai noté que mes collègues, les orateurs et les oratrices précédentes, ont fait de vraies interventions construites, un peu longues. Alors que moi, j'avais compris qu'il fallait juste comment on dit, des capsules, quelques minutes de capsules. Non, là, je me sens autorisé à parler 1 heure et demie à peu près. Ça ira. On a toute la nuit. Bon. Non, je vais vous parler donc d'un exemple de, alors j'ose plus dire fraternité. Un exemple d'adelphité, d'ailleurs il y aura de l'adelphité entre les deux grandes minorités religieuses qui ont fait l'histoire de la France jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle. Maintenant il y en a une troisième, c'est l'islam. Mais j'avais publié plusieurs livres ou articles sur les protestants et les juifs. C'est un très bel exemple, presque un exemple paradigmatique de ce que peuvent faire ensemble des minorités dans une société qui était une société profondément catholique, la société française. Je crois, il a été parlé à plusieurs reprises d'amitié. C'est un très bel exemple d'amitié minoritaire entre les Huguenots, l'ancien nom des protestants, vous le savez, et les juifs. Voilà. On pourrait d'ailleurs, ça avait été proposé notamment au moment de la commémoration de l'édit de Nantes, le ministre de l'Intérieur de l'époque, ministre de l'Intérieur des cultes, par ailleurs protestant, Pierre Joxe, avait dit que l'édit de Nantes, on pouvait le commémorer, éventuellement le célébrer, mais qu'on pouvait aussi s'en servir d'exemple pour les liens entre l'État et la nouvelle minorité à problème, qui avait des problèmes, je ne dis pas qui faisait problème, qui avait des problèmes, à savoir l'islam. Donc on peut travailler sur plusieurs minorités, mais je vais en rester à ces protestants et à ces juifs, et puis aussi à ces protestanteux et à ces juiveux, un exemple d'adelphité. Voilà. Alors je vais quand même pas vous faire une conférence trop longue. J'adore parler, mais j'ai toujours peur d'être trop long. De toute façon, on adore tous parler. Notre métier, c'est d'aimer parler. Je vais essayer de pas être trop long. En même temps, vous dire que bon, vous connaissez tous l'histoire des Juifs, histoire tragique et magnifique. Les protestants français, à peu près les seuls en Europe, pas tout à fait les seuls. Si vous voulez de la précision, on pourrait faire le parallèle entre les protestants français, à une époque, les calvinistes de Hollande, les hussites de Bohême, les mennonites de toute l'Europe, c'est-à-dire ces minorités protestantes qui ont toujours été minoritaires et persécutées, qui n'ont jamais joui de l'appui de l'État, contrairement aux luthériens allemands, aux calvinistes suisses, aux anglicans anglais, aux luthériens de Scandinavie, aux presbytériens d'Écosse, etc. Et ces minorités protestantes, donc, pardon, j'oubliais la plus célèbre, la plus romantique, la plus héroïque. Un peu de silence. Je voudrais saluer avec vous, mes sœurs, éventuellement mes frères, les Vaudois des vallées vaudoises d'Italie du Nord, les Vaudois de Torre Pellice, de Bobbio Pellice, qui sont des Huguenots au carré ou au cube, par la durée dans l'histoire. Ils ont 1000 ans, les Vaudois. Les Huguenots, ils n'ont que 4 siècles, peut-être maintenant 5. Voilà. Ce qu'ont vécu ces minorités, c'est une histoire judaïsante. D'ailleurs, le grand historien des Vaudois d'Italie du Nord, le pasteur Alexis Muston, qui a dû fuir l'Italie avant l'unité italienne, qui a dû fuir l'État du Piémont-Sardaigne en 1835 pour se réfugier dans un bourg de la Drôme dont il a été pasteur toute sa vie, Bourdeau. Son histoire en 2000 pages des Vaudois s'intitule, écoutez bien, le surtitre, c'est à tomber par terre de poésie, je trouve, l'Israël des Alpes. Pour parler de la minorité vaudoise. Et ces protestants ont vécu exactement, les Huguenots, on va rester avec les Huguenots, les grands traits de l'histoire juive. Ils ont vécu, tout y passe, la chute du ou des temples. Ils ont vécu la diaspora. Il y a une diaspora huguenote extraordinaire, hein, qui a marqué l'Europe, qui a marqué l'Afrique du Sud, parfois pour le pire, hein, il faut bien le dire. Botha était un descendant du huguenot ardéchois, qui a marqué les États-Unis d'Amérique, etc. Ils ont vécu la diaspora, ils ont vécu le maranisme, c'est-à-dire la fidélité clandestine, une fois les portes closes dans le silence de la montagne, la fidélité à la foi perdue, la foi interdite. Ils ont hébraïsé, j'ai souvent fait des conférences sur ça, si vous m'avez déjà entendu, pardonnez-moi. C'est la nuit de l'éthique, tout nous sera pardonné ce soir, Thalès, tout nous sera pardonné, même les répétitions des orateurs. Les protestants français, vous le savez, ont choisi, c'est anecdotique, en même temps c'est fondamental, ils ont choisi des prénoms juifs pour les leurs. Je voudrais citer je l'ai souvent dit ça, mais c'est tellement beau, les prénoms des grands chefs camisards. Vous savez, la révolte de 1702 contre Louis XIV, ils l'ont pas inventé, ils s'appelaient Abraham Mazel, Salomon Couder, David Mazouric, Élie Marion, le premier chef camisard, Gédéon Laporte. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est là qu'on va voir si vous connaissez l'Ancien Testament. Vous ne saviez peut-être pas jusqu'à cet instant-là, il est minuit et quelques de la nuit de l'éthique, vous ne saviez pas que les camisards avaient une cavalerie. Car les camisards ne sont pas que des Cévenols, avec tout le respect que j'ai pour les Cévenols, vous l'imaginez. Il y avait aussi des gardiens de Camargue chez les camisards. Il y avait, vous savez, les chevaux blancs de Camargue. Et le chef de la cavalerie camisard s'appelait Abdias Morel. Voyez ? Voilà. De même, vous savez qu'il y a dans les Cévennes un musée. J'ai compris, il y a que 4 ou 5 ans, j'ai compris que le nom de ce musée était incompréhensible pour la totalité des gens, même très cultivés. Il était à la limite du contresens. C'est le musée du désert. Si vous ne connaissez rien au protestantisme, le musée du désert, vous dites, c'est peut-être à côté de Saint-Guilhem-le-Désert, ou c'est un musée sur le Sahara. Après tout, Théodore Monod, c'est un protestant, c'est un spécialiste du Sahara. Eh bien non. Le musée du désert n'a rien à voir avec le côté désertique des choses. Le musée du désert, il est dans la forêt. Enfin, c'est une forêt méditerranéenne. Hein. C'est pas la margeride. Hein. C'est des chênes verts. Le chêne vert, je trouve que c'est un arbre un peu diminué par rapport au hêtre, au faillard ou au châtaignier. Il s'appelle musée du désert parce que les protestants ont raconté leur histoire à la manière de l'Ancien Testament, et de même que les juifs avaient traversé le désert, de même les protestants après la révolution du Nord traversaient le désert. Voilà. Et puis, et je voudrais insister sur ça, arrivent les Lumières, arrive la Révolution française, et à partir de la Révolution française, vous savez que les dates sont très proches, 1789, les protestants, pour la première fois, sont déclarés citoyens à part entière. Et 1791, quasiment, je crois que c'est même la première fois en Europe, c'est la seconde fois dans l'histoire du monde avec les États-Unis, les Juifs sont déclarés citoyens égaux à part entière. Et à partir de là, à partir de la Révolution, les protestants et les Juifs, un orateur a fait allusion tout à l'heure en disant que la laïcité, c'était plutôt meilleur pour les minorités que pour la majorité catholique. C'est vrai. L'Église catholique, elle a pas mal eu à perdre dans la laïcité. Beaucoup de privilèges historiques, massifs. Les deux minorités ont beaucoup gagné. Et les protestants et les juifs, vous le savez, je vais vous donner quelques exemples en insistant sur les femmes, si vous le permettez, dans un instant. Les protestants et les juifs ont beaucoup travaillé ensemble de manière alors fraternelle ou sororale ou adelphique, comme vous voulez, à la construction d'un État et d'une société moderne, c'est-à-dire pluraliste, tolérante. Il y a eu vraiment, dans les périodes de bonheur qui ont suivi de la Révolution jusqu'à nos jours, et aussi, j'en dirai un mot rapidement, dans les périodes de malheur, qui sont de plus en plus des périodes de malheur pour les Juifs, exclusivement, il y a eu un travail ensemble, fraternel, des protestants et des Juifs pour moderniser la société française et l'État français. Je donnerai deux exemples qui concernent les femmes. Voilà. On a assez parlé des hommes. Tout à l'heure, Marlène nous expliquait que les hommes avaient monopolisé la parole pendant 2000 ans. Pardonnez-moi de le faire pour quelques minutes encore. En 1800, j'oublie toujours la date, entre 1880 et 1884, tout a été laïcisé en France. Les cimetières, on en a parlé tout à l'heure, hein, qui jusque-là étaient une terre sainte, dans laquelle les protestants, les juifs, les prostituées, les comédiens et les suicidés n'avaient pas accès. C'est la raison pour laquelle il y a eu l'affaire Calas. Parce que la famille Calas n'a pas osé dire que le gamin s'était suicidé, pour lui éviter le déshonneur, etc. Bon, vous savez ce qui s'en est suivi. Et dans cette année-là, un député appelé Camille C., mais pas le C des protestants, pas le C du sucre, ça va ? Pas le C de Jean-Baptiste, S-A-Y, le C des juifs, S-2-E. Camille C. a fait voter, chaque année j'explique à mes étudiants américains, je mens un peu, je dis que le lycée Saint-Sernin est le premier lycée de jeunes filles de France. Mais à Montpellier, ils disent que c'est eux qui ont le premier lycée de jeunes filles de France. Bon. Camille C. a fait voter la loi, elle est de 1880 ou 81, la loi créant les lycées de jeunes filles. Marlène, qui doit être dans la salle, ne vous a peut-être pas dit la cruauté de l'inégalité. On a créé des lycées de garçons pour les garçons en 1802 de mémoire, hein, sous Napoléon. Et on ne s'est pas préoccupé des filles. Et on a abandonné en quelque sorte les filles de la bourgeoisie au collège ou au lycée, tenu par des congrégations religieuses. Il y en a encore un peu partout en France et notamment à Toulouse. Il a fallu attendre donc la Troisième République et c'est Camille C., un juif, qui fait voter cette loi, et la commission qui met en œuvre la loi, qui comprend plusieurs députés, de mémoire, sur 5 députés, il y a 3 protestants. Et on a le sentiment que les protestants et les juifs travaillent ensemble, notamment pour libérer les jeunes filles, pour dire, comme l'avait dit Jules Ferry, libre penseur, mais qui avait épousé une protestante alsacienne. Et Jules Ferry disait, ne soyez pas choqués, il disait, il faudrait que maintenant, les hommes du 19e siècle, c'était l'époque, qui puissent vivre avec des femmes qui ne soient pas des femmes du 16e siècle, mais qui soient leurs contemporaines et leurs égales. C'était la peur des hommes républicains d'avoir pour épouse des femmes instruites par les congrégations religieuses et donc qui ne soient pas leurs égales, qui ne soient pas capables de discuter à égalité de politique, de modernité avec eux. Et ils ont créé ces lycées de jeunes filles pour, en quelque sorte, introduire, alors là on retrouve le thème d'égalité, une égalité de formation, une égalité de discussion dans le couple. Et j'ai une collègue qui avait d'ailleurs sa thèse sur les libres penseurs, Jacqueline Lalouette, qui avait publié un article assez étonnant, il y a 20 ans de ça, sur le fait que toute une série de républicains de la génération de Jules Ferry avaient épousé comme par hasard des protestantes. C'était devenu presque systémique, comme on dit aujourd'hui. L'hypothèse de Jacqueline Lalouette, c'est qu'ils recherchaient chez les protestantes des égales intellectuelles qu'ils ne pouvaient pas trouver, à tort ou à raison, chez les jeunes filles catholiques de leur temps, parce qu'ayant reçu une formation trop traditionnelle, trop religieuse, cléricale, la jeune fille se préparant à son statut d'épouse et de mère. Et à ce moment-là, je vous le signale, la grande revue qui existe toujours, donc des jésuites, la revue Les Études, avait publié un article pour dire « Regardez le complot qui se trame contre le christianisme, confondu avec le catholicisme. » Et pourquoi il y avait un complot ? Parce que les juifs et les protestants travaillaient ensemble pour créer les lycées de jeunes filles. Alors quel était le lien entre la création des lycées de jeunes filles et la survie du catholicisme ? Eh bien c'est l'idée qu'en rendant des jeunes femmes instruites, éduqué à l'égal des hommes, on allait affaiblir le couple, affaiblir la famille, et donc les jésuites de 1880 ont cru sérieusement que protestants et juifs travaillaient par les lycées de jeunes filles à introduire le divorce dans les couples et affaiblir la famille catholique. Bon, ça fait partie des fantasmes antisémites qui, vous voyez, sont des fantasmes anti-judéo-protestants et qui ont une part de, comme on dit aujourd'hui, de virilisme ou de masculinisme face à cela. Et de même, autre exemple de travail en commun des protestants et des juifs, les premières associations féministes françaises, alors les spécialistes du féminisme vous diront que c'est un féminisme bourgeois et sage. pas révolutionnaire, même pas tellement suffragiste, hein, mais les premières associations de femmes ont été dirigées, fondées et dirigées en commun par des juives et par des protestantes. Du côté juif, c'est, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Cécile Braunschweig, l'épouse du philosophe spécialiste de Pascal, et du côté protestant, c'est Julie Siegfried, et c'est Sarah Monod, hein, vous connaissez sans doute ces noms. Et donc là aussi, le sentiment qu'il y avait un travail en commun, destiné non pas, comme croyaient les jésuites, à blesser au cœur la famille chrétienne, mais destiné tout simplement à faire plus d'égalité entre hommes et femmes, d'une part, et aussi entre les minoritaires et la majorité catholique. Voilà. Et je suis pas trop long, ça va? Vous m'accordez quelques minutes encore? Vous voulez que je crie dans le métro, dans le micro pour que réveiller la salle? Oui. Vous voulez que j'entonne le psaume des batailles? Oui. Marlène, je peux? Que Dieu se montre seulement, et l'on verra en un moment abandonner la place. Je signale que j'interdirai la rediffusion de mes interventions. Et je suis très sérieux, Thalès. Je plaisante pas, parce que ma compagne risque de le regarder, et elle m'avait promis d'être sage. Mais ok. Donc je te remercie, Thalès, pour le bien du couple, hein, n'est-ce pas? Voilà. Que je vous dise, puisque vous m'accordez 2 minutes de plus, mais ça c'est très connu aussi et c'est plus grave comme heure. De même que protestants et juifs ont travaillé ensemble à moderniser l'État et la société, de même ils ont dû travailler ou œuvrer ensemble lorsque la haine et la persécution se sont abattues contre les juifs. Il n'y a plus grand-chose contre les protestants. Et trois éléments à vous dire, trois époques très différentes, mais très significatives. Les années 1830, les années 1890, c'est l'affaire Dreyfus, et les années 1940. Dans les années 1830, la monarchie de Juillet, c'est le début du capitalisme, c'est le début du libéralisme. Je signale que les hommes forts sont des hommes. Il y a quelques femmes aussi, notamment Madame Mallet qui a créé les écoles maternelles. On appelait ça les salles d'asile à l'époque. Mais parlons simplement des hommes forts de la monarchie de Juillet. C'est un protestant, c'est Guizot, vous le connaissez bien, c'est un protestant. Et ce sont deux juifs, Rothschild et Pereire. Rothschild, c'est le judaïsme ashkénaze, Pereire, c'est le judaïsme séfarade de Bordeaux. Hein. Ils étaient d'ailleurs rivaux, vous savez, c'est pour ça qu'il y a deux lignes de chemin de fer qui mènent du sud à Paris. Il y a celle des Pereire, à l'ouest, il y a le PLM des Rothschild par la vallée du Rhône. On a eu le sentiment, certains observateurs, je vais citer un observateur en particulier, ont eu le sentiment que les protestants et les juifs travaillaient à construire le capitalisme et donc à faire le malheur de cette nouvelle classe qu'on a vue apparaître, qui est tout simplement la classe ouvrière. Voilà. Un livre a été publié en 1836, un livre extraordinaire, y compris de lucidité sur ce que le capitalisme naissant dans sa violence créatrice était en train de faire subir au corps des ouvriers et des ouvrières, et des enfants aussi. Ce livre est écrit par un gars qui s'appelle Alphonse, je vais le prononcer à la française, Toussenel. À la méridionale, c'est Toussenel. Les Juifs, rois de l'époque. A priori, c'est un livre antisémite. Les Juifs, rois de l'époque. C'est un livre typique du complotisme d'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est un livre qui dit aux Français, « Français, vous avez fait la révolution politique. Vous avez cru abattre les maîtres. Vous n'avez fait que changer de maître. » Et à la place des maîtres officiels, explicites, visibles, l'aristocratie, vous avez mis des maîtres dont vous ne soupçonnez pas la réalité du pouvoir, et ces nouveaux maîtres, ils parlent de nouvelles féodalités, ils parlent de féodalité financière, ces nouveaux maîtres, ce sont les capitalistes, c'est ce qu'il appelle les juifs rois de l'époque. Et il dit, aujourd'hui, vous devez le savoir, Français, écoutez bien, vous allez me dire si dans les quatre villes, s'il y a des villes protestantes ou des villes juives. Il dit, il y a 4 villes qui dominent le monde. Francfort, ils visent qui, là? C'est pour vous éveiller, on travaille ensemble. On va voir si vous faites semblant d'écouter ou pas. Francfort, c'est qui? Non ! Oui, je sais, il y a eu le refuge Huguenot par Francfort. Francfort, c'est la ville des Rothschild. Donc, c'est les Juifs qui sont visés. Ensuite, il cite Genève. Là, il n'avait pas lu Max Weber, mais il avait déjà tout compris, c'est protestant. Il cite Londres. C'est protestant aussi. Et il dit la pire des quatre, la ville qui domine le monde, la pire des quatre, c'est Boston. La ville des puritains, la ville protestante par excellence, voilà. Et c'est un livre, les Juifs de l'époque, c'est un livre qui a été perçu comme le premier livre antisémite de France, peut-être même d'Europe. Le mot antisémitismus qui a été créé par les Allemands, c'est des décennies après. Mais en vérité, c'est un livre anticapitaliste, c'est un livre anti-protestant, c'est un livre anti-anglais, c'est un livre anti-américain. Et c'est un livre qui fonde, sachez-le, ça peut être utile de le savoir aujourd'hui, c'est un livre qui fonde pleinement l'antisémitisme de gauche. Les Français nous adorons croire et détester l'antisémitisme de droite. Et or, nous savons mieux aujourd'hui, mais les historiens ont toujours su, il y a un antisémitisme de gauche dont la plus grande figure après Toussnel, c'est Proudhon. J'ai oublié de vous dire que Toussnel est socialiste. Un proche de Cabet, les socialistes utopiques de la France. Vous connaissez Proudhon. Proudhon, c'est officiellement le penseur de l'anarchisme. Mais Proudhon était furieusement antisémite et Proudhon était furieusement antiféministe. Et vous savez que Proudhon a été très lu par Maurras et par Mussolini. Hein, voilà. Donc c'est le premier cas. Lorsque le capitalisme se fonde, en France, on a le sentiment qu'il est le résultat détestable de cette alliance judéo-protestante Francfort-Boston. Deuxième exemple, c'est l'affaire Dreyfus. Et là, vous le savez sans doute, c'est très connu, l'affaire Dreyfus... Elle a éclaté comme affaire après le fait divers parce que les Juifs ont voulu défendre l'un des leurs, le frère du capitaine, le Juif nîmois Bernard Lazare. Hein. Mais ça n'aurait rien donné si seuls les Juifs avaient défendu un Juif. On aurait crié au communautarisme, au complotisme. Il a fallu que de non-Juifs interviennent et les premiers non-Juifs qui sont intervenus, c'est pas Zola, hein, ce sont des protestants. Peu importe, Schreier Kessner, qui était une figure importante du Sénat, et c'est surtout l'historien Gabriel Monod. Et Gabriel Monod disait « Je suis désolé d'intervenir, je sais qu'on va me détester, qu'on va dire c'est parce qu'il est protestant qu'il intervient », mais Gabriel Monod disait « il faut un nouveau Voltaire pour la nouvelle affaire Calas ». Et donc, voyez, on est à Toulouse, les protestants réagissent à l'affaire Dreyfus. En tant que protestants, c'est parce qu'ils ont le sentiment que l'affaire Dreyfus, c'est la répétition de l'affaire Calas, et qu'il faut un nouveau Voltaire, et Gabriel Monod intervient le 5 novembre 97 dans Le Temps, et ensuite Zola prend la suite. Est-ce que vous savez quels sont les deux départements? Je vous pose une question, ça va me reposer la voix. J'ai bientôt fini, sauf si vous m'acclamez pour que je continue jusqu'à 2 heures. Mais sinon, je vais m'arrêter. Est-ce que vous savez quels sont les 2 départements de France Dreyfusard? Il n'y en a eu que 2. Est-ce que vous savez que l'affaire Dreyfus n'a intéressé à peu près personne en France, sauf les intellectuels parisiens? Est-ce que vous savez que... Ça m'avait fait rêver comme formule. Jules Guesde. Jules Guesde, par rapport à Jean Jaurès, c'est comme Jean-Luc Mélenchon par rapport à Mitterrand, si vous voulez. Jules Guesde avait dit, et ça avait de la gueule, il avait dit, écoutez, Dreyfus, on n'en a rien à faire. Dreyfus, c'est un bourgeois qui se démerde entre les bourgeois. Ce qui arrive à Dreyfus, ça ne concerne pas la classe ouvrière. Et là, Jaurès avait répondu, un peu, vous savez, la formule de Yad Vashem, qui sauve un homme, sauve l'humanité. Jaurès avait dit, non, Dreyfus n'est pas un bourgeois. Dreyfus est un être humain broyé par une machine étatique et militaire. Et ce qui arrive à Dreyfus nous intéresse tous, et au premier plan, plutôt les ouvriers que les autres. Voilà. C'est le grand débat entre la thèse ouvriériste d'un Guesde, qui a de l'allure. Elle m'avait séduite quand j'étais plus jeune et plus excessif. Je me suis calmé, hein, vous le voyez, hein. Mais très calme. C'est Jaurès qui avait raison, voilà. Quels sont alors les deux seuls départements dans une France qui n'en avait rien à faire, l'affaire Dreyfus? Est-ce que vous croyez que dans le Cantal, que dans les Landes, que dans les Pyrénées, est-ce que vous voyez que les gens vibraient pour Dreyfus? Non. Les historiens le savent. Alors, ces deux départements, je vous écoute. Je vous vois travailler. Alors non, pas la Haute-Garonne. Un département urbain à forte densité intellectuelle, la Seine. Paris, évidemment. Et ça a été dit, alors pas la Lozère, la Lozère c'est un trou perdu. Il y a quelques protestants qui ont sauvé l'honneur, mais le reste, c'est du catholicisme solide. C'est le Gard. Le Gard a été ultra-dreyfusard, et le Gard est le département le plus protestant de France. Et c'est pas le Gard catholique qui a été dreyfusard, c'est le Gard protestant. Saint-Jean du Gard, c'était passionné, Anduze, à Lédignan. Vous connaissez pas Lédignan? Olivier Abel connaît, parce que Lédignan, c'est ce bourg, franchement, aujourd'hui, noyé dans un vignoble sans intérêt, surchauffé, à mi-chemin entre Anduze et Nîmes. C'est le bourg où s'est retiré François Claveroli, après avoir quitté la Fédération protestante de France. À Lédignan, ils avaient nommé l'avenue Émile Zola, la rue du capitaine Picard et l'impasse de l'état-major. C'est authentique, hein, voilà. Donc, on voit bien le lien. Et ensuite, et j'en terminerai là-dessus, vous savez, je l'ai souvent dit, j'ai écrit des choses dessus aussi, vous savez que au moment où le malheur à nouveau s'abat sur les Juifs, sous le maréchal Pétain, dans la collaboration de la France de Pétain à la Shoah, vous savez sans doute que combien les protestants ont sauvé les Juifs. Je vais donner un ou deux lieux et un chiffre. Sur les 4000 justes parmi les nations qu'a honoré l'Institut spécialisé d'Israël, Yad Vashem, entre 10 et 11% des justes français et françaises sont des protestantes et des protestants. Et je l'ai souvent donné ce chiffre parce que, à l'époque, la France de l'intérieur, l'Alsace était redevenue allemande pour 4 ans, la France de l'intérieur comptait 1,6%. De protestants, et ces 1,6% ont donné entre 10 et 11% des justes parmi les nations. Après, c'est un chiffre, le nombre de justes qui signifie pas grand-chose. Au Chambon-sur-Lignon, vous connaissez le Chambon-sur-Lignon dans la salle, en Haute-Loire, ils ont nommé sur le plateau 90 justes, et puis ils se sont aperçus qu'ils pouvaient en nommer 300, 400. Alors, ils ont donné un titre collectif. Ils en sont restés là. Dans les Cévennes aussi, c'est plein de justes ou de gens qui ont sauvé des Juifs. Et là, et j'en termine là-dessus parce qu'il faut savoir s'arrêter, n'est-ce pas? Maurice Thorez l'avait dit, il faut savoir arrêter une grève. Nous, on dit à nos étudiants, il faut savoir arrêter une thèse, finir une thèse. Il faut savoir aussi finir de parler là. Si les protestants ont été à ce point dreyfusards, si les protestants ont été à ce point aux côtés des juifs dans les années 40, ça n'est pas parce qu'ils étaient plus lucides, plus intelligents, plus courageux que le reste de la population. Je l'ai souvent dit, je crois que ça a disparu beaucoup aujourd'hui, c'est parce que les protestants français des années 40 comme des années 1890 n'étaient pas des Français comme les autres, n'étaient pas des Français normaux. Leur tête n'était pas faite comme la tête d'un Français, que ce soit un Français socialiste ou un Français catholique. La tête d'un protestant français des années 1940, je ne sais plus si c'est vrai aujourd'hui, était une tête huguenote, une tête qui vibrait d'émotion à la première allusion à la Saint-Barthélemy, à la Tour de Constance. C'est comme ça. Je ne sais pas si la Saint-Barthélemy vous fait vibrer de douleur, d'émotion, si la révocation vous fait vibrer, mais c'était ça. Et ces protestants, jusque dans les années 40, pour eux, la mémoire huguenote, c'était pas un folklore, c'était pas un thème de discours et de musée comme aujourd'hui, c'est quelque chose de vécu. Tant que les protestants ont été des Français différents des autres, ils ont eu une relation d'affinité, d'adelphité, si vous voulez, pour Brunswick et Siegfried, avec les Juifs très particulières, que les Juifs avaient bien repéré, un modèle d'affinité minoritaire qui a largement contribué à moderniser, à laïciser, à séculariser la France. Aujourd'hui, je crois que c'est beaucoup moins vrai. Je pense que les protestants français sont beaucoup moins proches qui ne l'ont été des juifs, tout simplement parce que les protestants français sont devenus, je parle des protestants entre guillemets historiques, hein, les luthériens et les réformés, ils sont devenus de moins en moins huguenots, de plus en plus, je dirais, français banal comme les autres, et je pense qu'ils ont perdu en grande partie cette fraternité, cette sororité, cette adelphité avec l'autre minorité historique. Mais sachez-le, c'est presque un exemple, je dirais, d'école, comment deux minorités peuvent transformer un pays. Je donnerai deux autres exemples. Lorsque la Hongrie, vous savez qu'en Hongrie, une partie des élites sont calvinistes, hein. Vous savez qu'on murmure que Viktor Orban l'est. Le régent Horthy, qui était d'extrême droite dans les années 30, était calviniste. La famille paternelle d'un grand homme d'État français, je voudrais saluer ce prisonnier récemment libéré, Nicolas Sarkozy. Sarkozy est d'origine calviniste hongroise. Et en Hongrie, dans ce qu'on appelait le dualisme, après la défaite de l'Autriche en 1866 à Sadova, l'Autriche, en gros, s'est divisée en deux États, l'Autriche-Hongrie. Et la partie hongroise, à Budapest, elle l'a modernisée à marche forcée, comme souvent après les défaites, on modernise, comme l'a fait la France après Sedan. Et il a été montré que les deux forces de modernisation de la Hongrie après 1867, ce sont les Juifs, qui, vous le savez, ils étaient très nombreux en Hongrie, et ce sont les calvinistes. Voilà. Et puis un autre exemple de travail en commun des minorités, et là pour le coup, les Noirs américains ne leur ont pas beaucoup rendu. Il y a eu les Juifs américains ont été longtemps aux côtés des Noirs américains dans la lutte pour l'égalité des droits. Ils n'ont pas toujours été récompensés par la reconnaissance des Noirs américains, mais c'est un autre problème. Sur ce, je vous salue, je vous souhaite une bonne fin de nuit d'éthique, et je vous dis à l'année prochaine.